VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 7 novembre 2017 en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
République démocratique du Congo, les États-Unis appellent au respect du calendrier électoral publié dimanche par la commission électorale.
Au Mali, au moins une dizaine de morts dans différentes attaques lancées par les djihadistes dans le centre et le nord du pays.
Au Togo, le gouvernement assure prendre toutes les dispositions nécessaires pour que s'instaure un dialogue avec l'opposition.
Au Libéria, la Cour suprême a suspendu sine die l'élection présidentielle dont le second tour était prévu aujourd'hui.
Au Zimbabwe, limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, rival possible de la première dame Grace Mugabe.
Arrivée du président américain Donald Trump en Corée du Sud, seconde étape de sa tournée asiatique.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les États-Unis jugent que la publication d'un calendrier électoral en République démocratique du Congo établit un échéancier clair pour une transition dans le pays, d'après Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU. Le point avec Anastasie Tudiech.
La publication d'un calendrier électoral, longtemps attendu, établit un échéancier clair pour une transition du pouvoir, a affirmé Nikki Haley dans son communiqué. De nouveaux retards et tentatives de garder le pouvoir ne feront qu'isoler les dirigeants de la RDC, a averti la diplomate. Pendant son passage récent à Kinshasa, elle avait déjà mis en garde les autorités contre une absence d'élection en 2018. Selon le calendrier électoral publié dimanche par la CENI, une élection présidentielle est prévue le 23 décembre 2018, en même temps que les législatives et les élections locales. L'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait un scrutin au plus tard le 31 décembre cette année. L'opposition a rejeté la nouvelle échéance de fin 2018 et réclamé le départ du président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé fin 2016.
De son côté, le département d'État américain s'est félicité de la publication du calendrier électoral en RDC et a appelé la CENI, le gouvernement, les leaders des partis d'opposition, les organisations de la société civile et le peuple congolais à œuvrer ensemble pour assurer le respect des échéances annoncées. Le département d'État demande aussi que toutes les actions et déclarations restent dans le cadre de la Constitution congolaise et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Washington note également qu'il est important que le président Joseph Kabila respecte la Constitution, ne cherche pas à briguer un troisième mandat et quitte le pouvoir après les élections. Et puis notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, nous signale qu'au quartier Machipicha, des militants de l'UDPS et des parlementaires ont été dispersés hier soir par la police qui a usé de gaz lacrymogène et de tirs en l'air. Ils étaient réunis, nous dit Narval, pour exprimer leur mécontentement après la publication du calendrier électoral en RDC. Nous reviendrons sur les réactions dans la seconde partie de cette édition.
La Maison-Blanche a publié un communiqué prorogeant au-delà du 22 novembre 2017 le décret de 2015 déclarant, je cite, « une urgence nationale pour faire face à la menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis que constitue la situation au Burundi ». Une situation marquée par des meurtres et la violence contre des civils, des troubles, l'incitation à une violence imminente et une répression politique significative qui menace la paix, la sécurité et la stabilité du Burundi et de la région. Fin de citation.
Au Mali, au moins une dizaine de morts, dont 5 civils, dans différentes attaques lancées dans le centre et le nord du pays par des groupes djihadistes contre les positions et convois de l'armée malienne et de ses alliés. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Le lundi 6 novembre 2017 a été un lundi noir au Mali, avec au moins une dizaine de morts dont des civils. Tôt le matin à Soumpi, un véhicule militaire a sauté sur une mine à l'entrée du camp de Soumpi, faisant un mort et 3 blessés graves. Cette attaque a poussé le premier ministre en visite dans la région de Tombouctou à reporter son déplacement dans le cercle de Niafunke. Ablaye Idrissa Maïga voulait aller voir surtout l'état sécuritaire du pays, encourager les administrateurs. Tout cela en vue de la tenue des élections régionales de décembre prochain. 30 minutes après, entre Kona et Doro, au centre du pays, un convoi de l'aménagement escorté par les FAMA est tombé dans une embuscade. Le bilan est de 5 morts, dont un militaire et 4 civils. À Ansongo aussi, région de Gao, un minibus a sauté sur une mine, bilan 4 morts, tous des civils. Les passagers partaient pour la foire hebdomadaire de Fafa. À Fatoma, un notable a été froidement assassiné à son domicile. La dernière attaque de la journée s'est passée à Gossi. Bilan, un soldat de la garde nationale a été tué, un autre blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, le gouvernement a affirmé hier prendre toutes les dispositions nécessaires pour que s'instaure un dialogue avec l'opposition, et ce après plus de 2 mois de manifestations contre le pouvoir du président Fornia Simbé, au pouvoir depuis 2005. De nouvelles manifestations de l'opposition sont prévues aujourd'hui, demain et après-demain, faisant craindre de nouveaux épisodes de violence entre les manifestants et la police et l'armée. Au moins 16 personnes ont été tuées et 200 autres blessées, selon un bilan établi par l'AFP. L'opposition demande que le nombre de mandats présidentiels soit limité à 2 et demande aussi la démission de Fornia Simbé, héritier d'une famille à la tête du Togo depuis 50 ans.
La Cour suprême du Libéria a suspendu hier, sine die, l'élection du nouveau président en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner un recours d'un parti d'opposition. Les 2 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, pour départager le sénateur et ex-star du foot George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, arrivés largement en tête du premier tour le 10 octobre, devront donc encore patienter pour désigner le successeur de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix 2011.
Au Nigeria, le gouvernement et des chefs locaux ont appelé hier un groupe armé du sud-est pétrolier à s'abstenir de mener de nouvelles attaques sur les pipelines pour donner une chance aux pourparlers de paix en cours avec le gouvernement. Le point avec Morgane Guiriec.
Ousani Ouguru Ousani, ministre des Affaires du Delta du Niger, s'est entretenu hier avec le président Muhammadu Buhari à Abuja. Il a appelé les vengeurs du Delta à la patience, citant plusieurs réalisations, dont l'université maritime à Okerekoko, pour laquelle la présidence nigériane a alloué un budget de 12 millions d'euros. Edwin Clark, responsable du Pan-Niger Delta Forum, pour négocier une sortie de crise pro-apaisement, estimant qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que tout se fasse en un an. Judy Assouni, coordinatrice du groupe de contact et de dialogue, estime que la reprise des attaques serait ridiculement inutile. Les vengeurs du Delta du Niger ont revendiqué 17 attaques contre des installations pétrolières en 2016 et ils ont menacé la semaine dernière de reprendre les hostilités.
Le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, considéré comme l'un des successeurs potentiels du président Robert Mugabe, a été limogé. Une annonce qui intervient au lendemain de la déclaration de la première dame Grace Mugabe, qui a ouvertement exprimé sa volonté de succéder à son mari, Abdourahmane Dia.
Le ministre de l'Information, Simon Kaya Moyo, a annoncé la nouvelle, indiquant que le président Mugabe avait exercé son pouvoir de relever avec effet immédiat le vice-président de ses fonctions. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, surnommé le crocodile, faisait face depuis des semaines à de vives critiques de proches du président, dont son épouse Grace Mugabe. Il lui reprochait de prétendre avoir été victime en août dernier d'une tentative d'empoisonnement de la part de la première dame. Madame Mugabe a vigoureusement démenti. Pour le ministre de l'Information, le vice-président a systématiquement et constamment fait preuve de manque de loyauté, de manque de respect, de malhonnêteté et de manque de sérieux. Son départ intervient 24 heures après que Grace Mugabe a déclaré devant des militants du parti au pouvoir qu'elle était prête à succéder à son mari.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'homme armé qui a tué 26 personnes et blessé plusieurs autres dans une église du Texas semble avoir agi ainsi à cause d'une dispute avec sa belle-famille et il aurait envoyé des SMS pour menacer sa belle-mère avant de perpétrer son crime, selon les autorités. Devin Kelly, un ex-militaire renvoyé de l'armée de l'air pour violence conjugale, a ouvert le feu dans l'église en plein service religieux dimanche à Sutherland Springs, une petite localité près de San Antonio.
Le président américain Donald Trump est arrivé en Corée Corée du Sud, seconde étape d'une tournée en Asie, tournée qui a été dominée par le programme nucléaire de missiles balistiques de la Corée du Nord. Pendant sa visite de deux jours, on s'attend à ce que M. Trump réaffirme l'engagement des États-Unis à défendre leur allié sud-coréen contre Pyongyang, alors que les tensions augmentent dans la péninsule coréenne. Au Japon, sa précédente étape, M. Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe avaient souligné que toutes les options étaient sur la table quand il s'agit de la Corée du Nord.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier la Birmanie à mettre un frein à sa campagne militaire dans l'état de Rakhine et à permettre aux centaines de milliers de réfugiés musulmans Rohingyas exilés au Bangladesh de revenir chez eux. Renonçant à une résolution sous la pression de la Chine, proche soutien de la Birmanie, le Conseil de sécurité a adopté une déclaration conjointe qui condamne la violence ayant poussé les Rohingyas à fuir en masse la Birmanie depuis fin août. Quelques 900 000 musulmans Rohingyas de Birmanie sont entassés aujourd'hui dans des conditions insalubres, dans des camps de tentes dans le sud du Bangladesh. L'exode de plus de 600 000 d'entre eux depuis fin août a été qualifié par l'ONU d'épuration ethnique. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Arzuma Compaoré.
Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est en visite à Washington pour assister à la cérémonie de signature de l'accord avec le Millennium Challenge Corporation, MCC. Les États-Unis vont accorder 524 millions de dollars, plus de 262 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ces investissements iront à l'éducation, à la formation professionnelle ainsi qu'à des infrastructures de transport. Le directeur général de la Société nationale d'électricité de Congo-Brazzaville, Jean-Marie Iwanza, estime les besoins en énergie du pays à 1000 MW dans les 10 prochaines années, contre 600 MW actuellement. Selon les premières études, la capacité énergétique du barrage de Sunda oscillerait entre 486 et 616 MW. Pour lui, les études présentées par la Banque mondiale, qui prévoient une production de près de 486 à 616 MW au niveau du barrage de Sunda, ne peuvent combler les besoins en énergie du Congo. Cela malgré les 1200 milliards de francs CFA que le projet va coûter et les engagements fermes de l'achat de l'électricité produite par le barrage. L'Ouganda obtient une subvention de 30 millions de dollars de la part de la Chine pour appuyer le projet de modernisation des douanes du pays. L'accord de subvention a été signé en marge de la deuxième session de la commission mixte qui se réunit régulièrement pour examiner la mise en œuvre des décisions convenues entre l'Ouganda et la Chine.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les Sénégalais en route pour l'Afrique du Sud.
Eh oui, les Lions de la Teranga ont quitté Paris cette nuit pour rejoindre Polo Kwame, où ils affronteront les Bafana vendredi. Enjeu pour le Sénégal, remporter l'un des deux matchs de cette double confrontation avec l'Afrique du Sud pour espérer se qualifier pour le Mondial 2018. Sadio Mané, de retour de blessure avec Liverpool le week-end dernier, sera du voyage. Il devrait être ménagé par Aliou Cissé en cas de qualification.
La pression monte aussi à Abidjan,
où la Côte d'Ivoire accueille samedi au stade Oufouette Boigny le Maroc en tête du groupe. L'enjeu pour les Ivoiriens, il faut impérativement l'emporter pour repasser devant les Lions de l'Atlas et espérer aller en Russie pour disputer une quatrième Coupe du Monde d'affilée. Les Marocains arriveront sur place mercredi avec à leur tête le sélectionneur Hervé Renard qui espère bien crucifier les espoirs de son ancienne équipe.
West Ham, Limoges, son entraîneur.
Le club anglais annonce l'éviction de son entraîneur Slaven Bilic en raison des mauvais résultats de l'équipe en position de relégable et encore fessé à domicile samedi par Liverpool. 4 buts à 1.
Qui remportera le prix de l'athlète 2017?
Eh bien, tout va se jouer entre le Britannique Mo Farah, le Sud-Africain Wade van Niekerk et le Qatari Moutaz Essa Barchim. Ils sont les trois finalistes pour le prix de l'athlète de l'année 2017 qui sera décerné le 24 novembre par la Fédération internationale à Monaco. Les trois athlètes sont en lice pour succéder à la légende du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt, parti à la retraite à l'issue de la saison et sacré à 6 reprises entre 2008 et 2016. Un record. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Boston Celtics bat Atlanta Hawks 110 à 107 et Brooklyn Nets bat Phoenix Suns 98-92.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur les élections présidentielles, législatives et provinciales en RDC qui ont été fixées au dimanche 23 décembre 2018. La Commission électorale nationale indépendante a donc finalement rendu public dimanche soir le calendrier électoral, un calendrier qui est loin de faire l'unanimité comme nous vous le disions hier. L'opposition l'a aussitôt rejeté. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Quelques heures seulement après l'annonce de ce calendrier, la majorité présidentielle en a pris acte et appelé l'ensemble de la classe politique à œuvrer pour sa mise en œuvre. André Alain Atundu est le porte-parole de la MP.
C'est la nature de réaction que j'attendrais de nos collègues qui ne partagent pas ce calendrier, c'est de se préparer aux élections qui doivent concrétiser l'aspiration du peuple congolais à des élections apaisées. Nous avons tous pris l'engagement, que ce soit à la Cité de l'Union africaine, que ce soit aux échanges directs de la Saint-Cyr, que nous devrions nous en tenir au strict respect de la Constitution et au strict respect de l'accord que nous venions de conclure.
Ce calendrier est conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre signé le 31 décembre 2016, annoncé Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'en pense la Conférence épiscopale nationale du Congo qui a assuré les bons offices des discussions qui ont abouti à cet accord? Pour l'abbé Donatien Cholet, le porte-parole des évêques catholiques de la RDC, ce calendrier n'est pas très loin des prévisions de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
On pensait que c'était possible que les élections aient lieu au mois de juin. Puis il y a une équipe d'experts de la CENCO qui a travaillé avec la CENI. On a pensé que ça pourrait être possible au milieu de l'année, août-septembre ou plus tard. Maintenant, le calendrier est sorti avec la date de 23 décembre. Eh bien, le délai donné est presque égal au délai qui était prévu, donc presque une année en plus. Le délai du parachèvement de l'accord ne peut pas être égal au délai qui était prévu. Mais les évêques vont analyser profondément les données. L'Église ne réagit pas à chaud. Après la réunion des évêques, l'Assemblée générale plénière du 22 au 24 novembre vous sera informée.
Cependant, le calendrier électoral rendu public par la CENI n'est pas du goût de tous. Bien au contraire, il a d'ailleurs, dès les premières heures de sa publication, été rejeté par l'opposition. Si le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabuya, parle de provocation, Moïse Katumbi évoque lui un calendrier fantaisiste qui a pour seul but d'éterniser Kabila au pouvoir. Eva Zaïba du Mouvement de Libération du Congo, Délice Sanga de l'Envol, tous ont rejeté ce calendrier et accusé Corneille Nangaa de jouer le jeu du pouvoir. A ce sujet d'ailleurs, le Rassemblement de l'Opposition, le Front pour le Respect de la Constitution et l'UNC de Vital Kamerhe devaient se réunir ce lundi pour une réaction commune. Réunion avortée faute d'harmonisation. À la société civile, les premières réactions sont également de rejet. Dans une déclaration rendue publique sur son compte Twitter, le mouvement citoyen Loucha lutte pour les changements appelle à l'application de l'article 64 de la Constitution qui appelle à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et essaie de l'exercer en violation des dispositions constitutionnelles. La Loucha est également opposée au calendrier électoral de la CENI. Jonas Tchombela de la Nouvelle Société Civile Congolaise lui juge ce calendrier contradictoire.
La CENI a fait un mélange de la provocation, un déni de la réalité. C'est un défi réellement lancé à la démocratie au peuple congolais. La CENI a signé finalement qu'elle n'est pas une institution d'appui à la démocratie. Elle est devenue une institution de retardement des élections et d'accompagnement de la coalition au pouvoir.
Au niveau de la population, des points de vue divergent également.
Personnellement, le président Nangaa nous avait dit qu'il avait besoin de 5-4 jours. Et maintenant, il vient de rectifier pour que c'était 300 ou 400 jours là, jusqu'à décembre. Pour moi, je ne trouve pas vraiment un grand problème.
Je ne fais qu'être pour la publication du calendrier électoral, mais mon seul regret est que, en fait, la CENI, cette publication n'est pas effectuée du fait de sa propre volonté. Il faille que l'ambassadeur sud-américaine puisse venir ici au Congo afin que cette dernière puisse justement publier le calendrier électoral.
Je suis mécontent, c'est un calendrier fantaisiste. On attendait peut-être les le calendrier où la date soit fixée au mois de juin. Lui, il nous amène au mois de décembre 2018. Par rapport à quoi? Par rapport à les élections. Même ces dates-là, il n'y aura pas les élections. Ce sont des aventures montées de toutes pièces entre la majorité et Nanga.
Le moins que l'on puisse dire est que ce calendrier électoral est très loin d'avoir fini de faire parler de lui. Kinshasa, Thierry Kambouli de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'opposition congolaise voit dans ce calendrier électoral une autre manœuvre dilatoire du régime Kabila pour rester au pouvoir. Yacouba Ouédraogo a joint Emery Damien Calvira, président du directoire pour la transition sans Kabila.
C'est de la poudre aux yeux, une provocation totalement inacceptable. C'est donc là une stratégie supplémentaire pour maintenir en fonction un homme qui n'a plus mandat depuis un an. Monsieur Kabila, c'est donc un ancien président qui n'a plus ni légitimité ni légalité. Il tente donc de s'appuyer sur son conseiller Corneille Nanga, qui se cache derrière la CENI, pour pratiquer indéfiniment la politique d'usure et des mensonges avérés. Et devant cette obsession, laissez-moi vous dire, cher Monsieur, que nous sommes dans l'obligation de recourir à tous les moyens possibles pour neutraliser Joseph Kabila afin de sauver la République, sauver la paix et sauver notre Constitution.
Qu'est-ce que vous entendez par tous les moyens possibles?
Si nous devons recourir à la force, nous allons recourir à la force légitime. Nul n'est au-dessus de la loi. Si nous devons utiliser la brutalité pour neutraliser M. Kabila, nous allons le faire. La coalition CCTDNT ne reconnaît plus à M. Kabila le moindre droit d'engager la RDC.
Pensez-vous que techniquement des élections puissent se tenir quand on connaît quand même l'insécurité qui règne dans la RDC?
L'insécurité à laquelle vous faites allusion, elle est artificiellement créée. C'est l'œuvre de M. Kabila. Il essaie de créer les foyers de tension partout pour se maintenir au pouvoir. Et nous ne sommes pas dupes.
À quel moment pensez-vous qu'on puisse tenir des élections crédibles en RDC?
Il n'y aura aucune élection crédible au Congo avant la liquidation du régime de M. Kabila. On ne triche pas avec l'histoire. En 2006, Kabila n'a pas gagné l'élection. Il s'est accroché par force au détriment du vrai vainqueur. Il y a eu mort d'homme. En 2011, pareillement, il y a eu plusieurs morts. Et donc, chaque élection qui se tiendra au Congo sous le label du régime Kabila se soldera toujours par le sang. Et parler d'une élection au Congo aujourd'hui, c'est tout simplement vouloir enfoncer la guerre civile dans laquelle est en train de baigner notre pays. L'élection sous Kabila est porteuse de germes des conflits meurtrières. Et nous refusons cela. La voie avant toute élection, c'est de d'abord passer à une transition sans Kabila, une transition inclusive, comme nous l'avons prôné, et qui va, n'est-ce pas, préparer sereinement une élection crédible et incontestable. Si M. Kabila a encore un minimum de considération pour ce pays, il doit prononcer le message de son départ du palais de la nation avant le 20 décembre 2017. S'il ne part pas, nous allons l'arrêter.
C'était le président du directoire pour la transition sans Kabila, Emery Damien Calvira, et qui était joint à Bruxelles.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Ici aux États-Unis, la fusillade de dimanche soir au Texas continue de dominer l'actualité. Pour rappel, un ancien militaire de 26 ans a ouvert le feu dans une église, tuant 26 personnes et faisant plus de 20 blessés. Cette nouvelle tuerie pose encore une fois la question de la vente et du port des armes aux États-Unis. Pour une réaction, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur et spécialiste des États-Unis, Corentin Sella.
Une première réaction d'effroi et de penser évidemment pour les victimes. Ensuite, quand on prend un petit peu de recul pour analyser, on se rend compte qu'aux États-Unis, désormais, c'est sur un rythme quasiment trimestriel, tous les trois mois et même maintenant tous les mois, que se produit une attaque par arme à feu meurtrière. Et on note que s'il n'y a pas d'augmentation flagrante du nombre de tueries par arme à feu rapportées à la population américaine. Il y a par contre une augmentation incontestable depuis une dizaine d'années, et la tuerie de Virginia Tech, de la mortalité. Ce sont des attaques de plus en plus meurtrières, et on peut faire le lien, même s'il est parfois contesté, avec la prolifération des armes semi-automatiques, qu'on appelle parfois improprement les armes d'assaut, des armes semi-automatiques qui sont impliquées désormais quasiment dans toutes les tueries, que ce soit à Sandy Hook en 2012, que ce soit à Orlando, que ce soit là encore au Texas. Et évidemment, on se demande comment des personnes dérangées peuvent accéder aussi facilement à des armes semi-automatiques.
Avez-vous été surpris par la réaction de Donald Trump, qui au contraire a bien affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un problème de loi sur les armes?
Non, absolument pas. Le président Trump est tout à fait dans la lignée de sa campagne de 2016 et de ses premiers mois de président. Il a été élu sur une ligne très simple, qui lui a valu d'ailleurs le soutien éperdu du grand lobby des propriétaires d'armes, la NRA. En effet, Donald Trump considère que le droit de porter une arme à feu et de posséder une arme à feu pour sa défense est un droit protégé par la Constitution, ce qui est le cas depuis l'arrêt Elod de la Cour suprême en 2008, et que ce droit ne peut être en aucun cas remis en question. Par ailleurs, Donald Trump considère qu'au contraire, il s'en était fait l'écho, on s'en souvient peut-être de manière un peu particulière en France au moment des attentats du Bataclan, il considère qu'au contraire, il faudrait davantage d'armes et pour l'autodéfense des bons citoyens face à ceux qu'il considère, comme dans le cas si présent au Texas, comme de dérangés mentaux qui s'emparent d'armes pour attaquer. Donc une réaction tout à fait conforme de la part d'un président qui a été élu sur une ligne permissive quant aux armes à feu et qui défend le droit non seulement de posséder des armes à feu, mais qui défend aussi leur diffusion dans la société américaine.
Le professeur et spécialiste des États-Unis, Corentin Salin.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des infections sexuellement transmissibles chez les travailleuses du sexe, l'un des groupes les plus vulnérables.
Selon des études confirmées par l'OMS, le risque d'infection aux IST est de 14 fois plus élevé chez celles-ci par rapport à la population générale.
Nous évaluerons les risques associés aux plus vieux métiers du monde avec le témoignage d'une prostituée à Kinshasa.
Nous écouterons également les avis des experts avec un praticien et un responsable d'une ONG qui offre des services de dépistage et de traitement aux travailleuses du sexe.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
I'm not.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.